La revue de presse internationale, Camille Magnard, bonjour.
Bonjour.
La presse américaine ce matin se demande ce qu'il faut retenir de la confrontation hier au Sénat entre le juge Brett Kavanaugh, candidat à la Cour suprême, et cette ancienne camarade de lycée qui l'accuse d'agression sexuelle.
Oui, ça fait des semaines que les journaux outre-Atlantique se passionnent pour cette affaire. On a eu plusieurs fois l'occasion de l'évoquer dans cette revue de presse. Mais là, on est au paroxysme dramatique du scandale. Les deux protagonistes face à face, jurant sur la Bible et finalement s'en tenant fermement à leur version des faits. Fallait-il s'attendre à autre chose, se demande le New York Times. Eh bien, pas vraiment. Elle, Christine Blasey Ford, a parlé la première. Elle a décrit à nouveau ce dont elle dit avoir été victime ce soir d'été 1982, il y a 36 ans, récit des faits, comme s'ils avaient eu lieu hier. Ensuite, il a parlé, dit que tout cela n'était qu'un complot ourdi contre lui, sa réputation, sa famille, par ces démocrates qui n'ont jamais accepté la victoire de Donald Trump. Et à présent, eh bien, c'est au sénateur de parler, poursuit le New York Times. Un vote est prévu ce vendredi pour valider ou non la nomination de Kavanaugh à la Cour suprême. Trump lui a redit son soutien cette nuit sur Twitter. Alors finalement, pour le Washington Post, ce drame télévisé suivi par des millions d'Américains, tantôt passionnés, tantôt horrifiés, aura jeté bien peu de lumière sur le fond de l'affaire. Aucun compromis, aucun consensus n'a pu émerger entre cette femme et cet homme 100% sûr, chacun de leur version des faits. Et finalement, au-delà de ces deux personnes, ce sont bel et bien deux Amériques qui étaient confrontées hier. Ça, c'est l'analyse, là encore, du Washington Post, confrontées en une bataille nationale sur la confiance, l'identité et les rôles dévolus à chaque sexe. On est là dans la plus sensible des controverses américaines, femmes contre hommes, droite contre gauche. Tout cela devait forcément déboucher sur cette cascade de récriminations, ces explosions de colère, ces heures de pleurs et de sanglots auxquelles on a assisté hier. Oui, mais à nouveau, on en retient quoi en attendant la décision des sénateurs? Eh bien, sans doute que le mouvement MeToo a atteint cette fois la bonne société américaine, le milieu feutré des high schools et des fraternités étudiantes. À la faveur de l'affaire Kavanaugh, la libération de la parole a touché jusqu'au présentateur star de la chaîne Fox News, Chris Wallace. Écoutez ce qu'il disait hier soir à l'antenne.
Au cours de cette semaine, comme dans beaucoup de familles américaines, on a beaucoup débattu de tout ça chez moi. Et deux de mes filles m'ont raconté des choses similaires qui leur étaient arrivées au lycée et dont elles ne m'avaient jamais parlé avant. Rien d'aussi grave que ce qui est reproché au juge Kavanaugh, mais l'important, c'est que cette affaire fait ressortir des souffrances qui étaient tues jusque-là. Je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Ce serait une erreur de ne pas le faire.
Voilà, ça va rester, veut croire le Washington Post, et ça prend tout son sens quand c'est dit par Chris Wallace, qui est donc une vedette de Fox News, la source d'information préférée du président Trump.
Allez, on change de continent, Camille, pour rejoindre les rives de la mer d'Azov, où certains craignent les prémices d'une bataille navale entre l'Ukraine et la Russie.
Alors la mer d'Azov, si vous n'avez pas un atlas sous la main, elle se trouve au nord-est de la mer Noire, délimitée au nord par l'Ukraine, au sud par la Russie, et séparée de la mer Noire justement par la péninsule de Crimée. Et c'est bien là quel problème, nous explique le magazine américain spécialisé Défense, The Daily Signal. Depuis que les Russes ont annexé la Crimée en 2014, eh bien, ils contrôlent les deux rives du détroit de Kerch qui marque l'entrée de la mer d'Azov. Et Kiev les accuse d'en profiter pour ralentir considérablement le trafic maritime vers les ports ukrainiens de Berdyansk et de Mariupol. Le ton monte dangereusement ces derniers jours avec les déclarations du président américain Petro Poroshenko, cité par le Kiev Post, et qui réplique en annonçant donc l'installation d'une base militaire à Berdyansk, justement. D'ailleurs, deux vaisseaux blindés ukrainiens ont été acheminés en pièces détachées par la route le mois dernier. Deux autres ont passé le détroit de Kerch ces derniers jours. Et le Kiev Post nous apprend ce matin que la marine ukrainienne pourra bientôt compter en mer d'Azov sur deux vedettes armées cédées par les gardes-côtes américains. Et justement, pour le Daily Signal, il s'agit bien là d'un soutien des États-Unis à l'Ukraine, agressée une nouvelle fois par la Russie. Voilà qui laisse augurer d'une tension grandissante dans cette mer d'Azov. Temps qui viennent.
Et puis on termine, Camille, avec une décision de la justice camerounaise qui accable le groupe Bolloré.
Oui, c'est-à-dire dans la Tribune Afrique, la filiale de Bolloré chargée du réseau ferré du Cameroun, Camrail, détenue à 70% par le logisticien français et à 15% par l'État camerounais. Camrail donc condamné avec 10 de ses dirigeants et salariés pour homicide involontaire 2 ans après cette catastrophe ferroviaire, un déraillement de train Yaoundé-Douala qui avait fait 79 morts et près de 600 blessés. Le dossier était accablant pour la filiale de Bolloré, nous rappelle Jeune Afrique. Le train roulait au double de la vitesse autorisée, les freins étaient défectueux et surtout sur 17 wagons de passagers, 8 avaient été ajoutés au dernier moment pour faire face à l'afflux de voyageurs. Au final, le conducteur du train écope de 5 ans de prison ferme. L'ancien patron français, lui, écope de 6 mois avec sursis. Et dans Jeune Afrique, son successeur nous explique que Camara, même fragilisé, compte reconquérir ses parts de marché, reconquérir aussi le cœur des voyageurs camerounais. Il mise pour cela sur la Coupe d'Afrique des Nations de football qui va être organisée au Cameroun l'an prochain. À défaut de pouvoir compter sur de nouveaux wagons, il a déjà prévu de remettre en circulation 11 voitures âgées de près de 50 ans qui étaient au rebut depuis des lustres et qui seront tout de même réhabilitées avant de reprendre du service.
Merci beaucoup Camille Magnard pour cette revue de presse internationale que l'on retrouve évidemment sur le site de France Culture, franceculture.fr.